Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de la semaine. Au sommaire, le premier ministre Choguel Kokalamaiga accuse la France de former et d'entraîner des terroristes sur le sol malien. Une tension existe depuis quelques jours entre les dirigeants des deux pays. Ce 11 octobre est célébrée la journée internationale des filles. La situation des filles au nord et au centre du pays est jugée critique par des défenseurs de leurs droits. Sport football, le Mali a battu hier soir le Kenya 1-0 au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Aigles se positionnent ainsi en tête dans le groupe E avec 10 points. Les détails dans la présentation Moumine Senebou nous dirait assure la mise en onde. La tension entre Paris et Bamako ne faiblit pas. Le premier ministre Choguel Kokalamaiga a accusé ce week-end la France d'avoir formé et entraîné une organisation terroriste sur le territoire malien. C'était lors d'une visite en Russie. Le chef du gouvernement de la transition a aussi déclaré que la France a interdit l'armée malienne de rentrer à Kidal. Juliette Koulibaly nous en dit plus.
La France a créé une enclave au Mali. Elle a formé et entraîné une organisation terroriste à Kidal, a déclaré le premier ministre malien Choguel Kokalamaiga. Il y a des groupes armés entraînés par les officiers français dans cette zone et nous avons des preuves. Nous ne comprenons pas cette situation et nous ne tolérons pas, a précisé Choguel Maiga. Ces déclarations ont été faites lors d'une interview accordée à un média russe en marge de la journée mondiale du coton à Genève dans la nuit de vendredi à samedi. Choguel a en outre ajouté que la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Ces nouvelles déclarations du premier ministre Choguel Kokalamaiga interviennent au moment où l'Élysée avait annoncé la fermeture de certaines bases de l'opération Barkhane après 7 ans de présence au Mali. Une décision que le chef du gouvernement malien a qualifiée unilatérale à la tribune des Nations Unies. Le président français Emmanuel Macron avait mis en doute la légitimité des autorités de la transition le 5 octobre dernier. Une déclaration qui a provoqué la convocation de l'ambassadeur de la France au Mali par le ministre des Affaires étrangères.
Une telle affirmation d'un premier ministre d'un État souverain prouve à suffisance que les relations entre Bamako et Paris sont détériorées. C'est ce qu'estime Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études stratégiques au Sahel. Cependant, il s'interroge sur les capacités du Mali à assurer sa propre sécurité en cas de départ de la France. Il est joué au téléphone par Juliette Koulibaly.
On pourrait assister dans un court terme à un retrait accéléré des troupes françaises, israéliennes, du Mali en particulier. Est-ce que le Mali est-il prêt et s'est substitué au rôle que joue aujourd'hui la force Barkhane dans les régions du nord du Mali et une partie même du centre? Le Mali est-il prêt dans le court terme de faire face à un éventuel départ prématuré des forces onusiennes, notamment l'AMINUSMA? N'oublions pas que la venue de l'AMINUSMA au Mali a été facilité par la France, par son statut. Il est extrêmement important d'analyser les choses dans le long temps et de ne pas surtout chercher à tout réduire à un patriotisme qui doit être nourri quand même par des éléments probants, non par du sensationnel.
8 heures passées des 3 minutes. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La sœur colombienne Gloria Cecilia Narvaez, retenue en otage depuis 2017 au Mali, a été libérée ce samedi 9 octobre 2021. L'information est rapportée par la présidence de la République du Mali. Après sa libération, accompagnée par le cardinal Jean Zerbo, elle a été remerciée le président de la transition pour son implication dans sa libération. Le point avec Kwanjara.
La nouvelle est annoncée par la page Facebook de la présidence dans la nuit du samedi à dimanche. Celle-ci salue le courage et la bravoure de la religieuse colombienne. Sur ce poste, les autorités font savoir que cette libération est le couronnement des 4 ans et 8 mois d'efforts conjugués de plusieurs services de renseignement. Accompagnée par le cardinal Jean Gerbo, sœur Gloria Cecilia Narvaez est partie remercier le président de la transition pour son implication dans sa libération. Le président de la transition a saisi cette occasion pour assurer au peuple malien ainsi que la communauté internationale que les efforts sont toujours en cours pour faire libérer toutes les personnes, maliens comme étrangers, retenues détenus sur le territoire du Mali. La serre colombienne avait été enlevée le 7 février 2017 à Karangasso par des hommes armés non identifiés. À noter également que d'autres otages sont toujours détenus au Sahel, notamment les journalistes Olivier Dubois et Amadou Nyalebouli.
Au même moment, on apprend la libération du pasteur de l'église protestante de Banesso, Emmanuel Goïta, enlevé le 20 septembre dernier dans le cercle de Yoroso. C'est le président du district évangélique de Yoroso qui confirme l'information. Il affirme également que le pasteur se porte très bien. Par ailleurs, la situation sécuritaire reste dégradée au centre du pays. À Nyono, dans la région de Ségou, des affrontements entre des chasseurs et des groupes terroristes ont fait une trentaine de morts, rapportent des sources locales. La même source affirme que les habitants de plusieurs villages dont le cercle se sont déplacés suite à des menaces des groupes terroristes. À Mopti, on parle aussi des arrestations des civils par des militaires. Plus de détails avec Ousmane Yalibouli.
Des groupes armés ont attaqué les sacerdotes qui gardaient les champs de riz entre Bouya-Guiwere et Sibi dans le cercle de Nyono. Ces faits qui ont eu lieu le mercredi dernier circulaient dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Toujours dans la région de Ségou, des sources locales indiquent que ces accrochages entre djihadistes et milices Donzo ont fait une trentaine de morts du côté des Donzo. Elle ajoute que plusieurs armes et munitions ont été emportées par les présumés terroristes. Encore dans la même zone, des centaines d'habitants des localités de Bozodaga dans la commune de Djabali se sont déplacés suite aux menaces des présumés djihadistes. Selon des sources locales, ces personnes déplacées se sont rendues dans des villages voisins. À Mopti, des sources locales annoncent l'arrestation d'une vingtaine de civils à Sofara par l'armée malienne. Contactée par notre rédaction, la direction de l'information et des relations publiques d'IRPA ne confirme pas cette information. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le groupe terroriste Jamaat Nusra al-Islam wal-Muslimin a revendiqué l'attaque contre le convoi des femmes le 6 octobre dernier, une attaque dans laquelle 16 militaires maliens ont perdu la vie.
Déscolarisation, mariage précoce, exploitation sont entre autres dangers auxquels les filles sont exposées dans certaines localités du Mali. Au nord et au centre du pays, les acteurs en faveur des droits des enfants regrettent que les conditions des filles continuent de se dégrader à cause de la situation sécuritaire. À l'occasion de la journée des filles, ils s'expriment sur la question. On en sait plus avec Alice Sissi.
Les responsables des jeunes leaders pour le développement des Gao regrettent que l'insécurité ait contribué à la dégradation des conditions de vie des filles dans la région. Aramata Abdraman évoque notamment la prostitution et la déscolarisation des filles.
Elles vont à l'école, celles des zones urbaines, mais celles des zones rurales sont victimes de manque d'éducation. Et cela est surtout dit aux conditions de vie de leurs parents. Elles sont très souvent victimes de mariages précoces, aussi bien dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains.
À quelques kilomètres de là, au centre du pays, à Ségou, la situation est tout autre. 60% des filles sont scolarisées dans la région, estiment des organisations locales. Cependant, le maintien de ces filles à l'école reste un défi, déclare Mme Koulibaly Mariam Kouyaté, présidente de l'association Djigia, point focal du réseau Ouassa.
Nous avons plus de 60% des filles qui sont scolarisées. Donc face au problème de maintien, comment faire pour les maintenir à l'école afin qu'elles aient des diplômes pour échapper à beaucoup de choses et pour relever le défi auquel nous sommes confrontés. Je pense que le maintien des filles à l'école, c'est un moyen efficace de lutte contre le mariage précoce.
Les bénéfices de la scolarisation des filles sont pourtant avérés et profitent à toutes et à tous, estime l'UNICEF. Une fille scolarisée peut facilement sortir de la pauvreté, ajoute-t-elle.
Sur un tout autre sujet, au Mali, la structure de prise en charge des personnes vivant avec des déficiences mentales ne peut accueillir que 10 enfants par semaine, alors que la demande est largement au-dessus de ce chiffre, indiquent les responsables de la MALDEM à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Ils affirment être confrontés à plusieurs autres difficultés. Selon Mme Yasmine Sanogo, présidente de l'association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l'enfant à MALDEM, cela fait un an que le personnel salarié de la structure ne reçoit pas sa rémunération. Et les gens au téléphone par Draman Maïga.
À la MALDEM, chaque lundi, nous recevons 10 nouveaux cas. Et là, on est arrêté à 10 parce qu'il y en a tellement au Mali. Nous gérons en fait 300 enfants, dont 150 en éducation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'ils viennent pour la rééducation, ils s'en vont, ils font des allers-retours. Et c'est parmi ceux-là que beaucoup ne suivent. Parce qu'il y a plusieurs sections de rééducation qu'il faut suivre. Mais nous sommes quand même satisfaits au cours de cette année. Parce que malgré les difficultés financières, il y a quand même beaucoup d'améliorations pour certains enfants. Mais il faut être patient, très très patient. Parce que la rééducation fonctionnelle va avec la patience. Actuellement, à la MALDEM, nous traversons d'énormes difficultés financières. Le personnel salarié de l'AMALDEM a vraiment besoin de l'appui de beaucoup de partenaires qui peuvent aussi nous aider pour les jeux éducatifs, le matériel éducatif, surtout beaucoup de médicaments.
Autre sujet, plusieurs manifestations ont eu lieu ce vendredi pour demander la prolongation de la transition de Yanfoyila à Kita en passant par Nyono. Les membres de l'association des Jinamalistes ont organisé des marches pour réclamer la prolongation de la durée de la transition de 18 mois à 3 ans. Je l'annonçais dans les titres, en sport football, éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, au compte de la quatrième journée des matchs retour. Le Mali a battu hier soir le Kenya 1-0. Le seul but de la rencontre a été marqué par Ibrahima Koné. Les Aigles du Mali sont en tête dans ce groupe E avec 10 points. Place maintenant à notre page santé. La situation de la COVID-19 à la date du dimanche 10 octobre 2021. Les autorités sanitaires du pays ont enregistré 21 nouveaux cas positifs, 5 patients guéris et 0 décès. Ainsi, la situation cumulée est de 15 471 cas, dont 14 378 guéris et 553 décès. Écoutons à présent la chronique Acti-Covid présentée par Juliette Koulibaly.
Au Mali, particulièrement à Bamako, les vieilles habitudes refont surface. Il s'agit notamment des poignées de main ainsi que les accolades. Est-ce dû au fait que les gens se sont lassés des restrictions sanitaires contre la COVID-19 ou qu'est-ce qui explique réellement ce relâchement des gestes barrières? On en sait plus dans ce reportage de Khalifa Goïta.
Hey Joe,
ça va? Oui, ça va.
C'est vrai. Mon gars là, il refuse de serrer ma main.
C'est le temps de COVID.
Mais COVID là, ce n'est rien.
Telle est présentement la mentalité de beaucoup de Maliens à Bamako et à l'intérieur du pays. La plupart de la population qui, par peur de la maladie, évitait les poignées de main et les accolades semblent ne plus s'en soucier. Pour certains, la COVID-19 n'est plus d'actualité au Mali. C'est justement ce que pense Issiaka Kone que nous venons de croiser à Dikoronipara, en commune 4 du district de Bamako.
L'ère COVID, là, c'est fini. Le gouvernement est une manière de se faire de l'argent. Nous, là, les saltations et les accolades, ce sont nos habitudes. On ne peut pas laisser ça. Si le Covid blanc, là, ça se trouvait ici, ça trouvera qu'on est tous morts. Notre Covid, là, c'est le rhume d'habitude. Moi, je peux porter masque. C'est pour éviter la poussière de Bamako.
Le mercredi dernier, les services de santé ont enregistré 31 nouveaux cas de Covid-19. Pourtant, quelques semaines auparavant, le pays n'enregistrait qu'une dizaine de cas positifs par jour. Cette augmentation du taux de contamination est-elle due au relâchement des mesures barrières? Docteur Boubacar Sidi qui Ibrahim Dramé, point focal COVID-19 à l'hôpital du Mali, nous explique.
La crainte était le relâchement, les comportements de respect par rapport aux mesures barrières. Donc ce n'est pas du tout étonnant pour nous. Ça allait être encore plus pire que ce que nous observons en ce moment parce que les couches les plus vulnérables dans la majorité des cas à Bamako ici ont accepté le vaccin.
Pour des spécialistes de la santé, prévenir vaut mieux que guérir. Ils invitent la population à rester vigilante et à se protéger contre la maladie.
À présent, la question d'auditeur, elle est répondue par Dr Abdoulaye Guindo, directeur adjoint de la Direction générale de la santé.
Bonjour docteur, une personne qui souffre de l'ulcère peut-elle se vacciner contre le coronavirus?
Alors, il y a certains produits qui sont connus qui peuvent réveiller l'ulcère ou bien le faire saigner ou bien l'aggraver. Les aliments aussi et surtout la faim qui sont un tout petit peu contre-indiqués pour l'ulcère mais pas le vaccin. Celui qui a l'ulcère peut se faire vacciner sous n'importe quel vaccin.
Fin de ce numéro d'Actu Covid, merci de l'avoir écouté.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
L'actualité dans les régions nous conduit à Koulikoro où une journée de restitution des résultats des ateliers sur les textes fondamentaux du Mali a eu lieu ce week-end. Elle vise à rendre public les résultats des synthèses des activités tenues sur ces textes et à recueillir les recommandations et impressions des acteurs locaux pour l'amélioration du document. Et c'est ce qui boucle ce journal. Merci de l'avoir suivi. La version Bambara, juste après le magazine avec Idrissa Sako. Je serai heureuse de vous retrouver demain à la même heure. En guise de rappel, vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamu au 37 321. Rendre la capitale malienne propre, c'est l'objectif d'un nouveau programme dénommé 1000 poubelles à Bamako. Il a été lancé ce samedi 9 octobre 2021. C'est une initiative du mouvement Mali propre. Un grain, une poubelle, c'est la stratégie adoptée par l'association qui pense les habitants de la capitale malienne de cette stratégie. Des réponses dans ce magazine Parlons de l'environnement présenté par Maman Babakunta.
Le magazine Parlons de l'environnement.
Notre environnement est sale, déclare la présidente du mouvement Mali propre. C'est pour le rendre propre que nous lançons le concept Un grain, une poubelle, explique Fatoumata Boubou Koïta.
On voit les caniveaux qui sont remplis, les ordures qui sont devant les hôpitaux, dans les écoles, dans les marchés. Nous nous sommes dit pourquoi pas lancer un projet 1000 poubelles à Bamako. Alors l'idée, ce n'est pas se limiter seulement dans la capitale, mais c'est aussi l'élargir sur le plan national et voir, ça peut être aussi un projet sous-régional.
La présidente du mouvement Mali propre est cependant consciente qu'il faut l'engagement et l'implication de tout un chacun pour rendre le pays propre. Chaque semaine, le mouvement se rendra donc dans un grain pour échanger avec les jeunes sur la problématique.
Notre politique, ce n'est plus être dans les accusations, dans les jugements, les critiques. C'est vraiment aller vers un réel changement où chacun arrive à comprendre que chacun compte et pour rendre le Mali propre, il faut que tout le monde s'implique. On croit à ce projet, c'est pourquoi on veut vraiment impliquer ces grains. Parce que l'objectif, c'est de sensibiliser la jeunesse. Et on ne veut pas se limiter seulement aux grains où il n'y a que des jeunes. On veut aussi associer, parce qu'il y a des grains où il y a des hommes âgés qui ont des choses à nous partager, qui peuvent aussi voir des préoccupations, qui peuvent aussi nous faire des rappels par rapport au Mali d'avant, comment était la ville de Bamako, comment est-ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens. Donc je pense que déjà, l'engagement est là. On compte sur les autres associations et les grains de Bamako à nous contacter, à nous faire confiance, parce que c'est un projet hebdomadaire. On veut le faire chaque samedi, aller dans les grains de manière relaxe, on discute, on boit du thé. En même temps, parce qu'au niveau des grains, on voit qu'il y a plusieurs tensions. Quand on est là, tous les jeunes sont sur leur téléphone. Il n'y a pas de communication. Donc ça peut être un moment d'échange où on parle de cette problématique.
Même avec plus d'un million de poubelles, est-ce que Bamako sera propre? S'interroge une habitante de Bamako. Écoutons les avis de certains habitants de la capitale sur cette initiative.
Bon, moi je pense que c'est une belle initiative, mais cette initiative à elle seule ne peut pas vraiment contribuer à tout cela. Donc il faut vraiment que les gens aient l'esprit de civisme pour pouvoir bannir tout cela. C'est-à-dire en conjuguant des efforts ensemble, en essayant de nettoyer la ville ensemble, quoi.
C'est vrai, c'est des options. Échanger dans les grains ou autre. Mais ce que je conseille vivement à ces gens-là, c'est vraiment de passer par les écoles. Là-bas, il y aura le maximum. Et surtout, les poubelles, c'est vrai. Espérons que les poubelles, même en question, ne seront pas d'autres ordures à part. Bamako, ce n'est pas une question de poubelles ou de choses. Il faut créer des voiries.
Moi, je pense que c'est une très, très bonne initiative et puis ça mérite d'être soutenu par l'État malien, surtout en les offrant encore plus de poubelles. Mais le problème est que je me demande, même avec plus d'un million de poubelles, est-ce qu'au Mali, on va respecter ces décisions? Parce que chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Donc, même avec plus d'un million de poubelles, est-ce que Bamako va être propre? C'est ça la question.
L'initiative du mouvement Mali propre est salutaire. Toutefois, elle doit être accompagnée d'un suivi, souligne Abdrahman Sanogo du bureau d'études Sahel Environnement.
Ce sont ces genres d'initiatives dont nous avons besoin dans ce pays. Des gens qui n'attendent pas l'État ou qui n'attendent pas les collectivités territoriales pour démarrer une action. Ça, c'est vraiment une initiative à saluer. Profite de l'occasion pour demander aux autres associations à s'intéresser à ce domaine. Parce que tout ce que nous faisons, si nous ne sommes pas dans un environnement sain, c'est le développement, la santé, tout ça qui serait impacté.
Et c'est ce qui met fin à ce numéro du magazine Parlons de l'environnement présenté par Mahamane Babakunta. À la semaine prochaine pour un autre numéro.